Radio Okapi.
Le journal Noël Alouzi Toukabambi à la présentation.
Naufrage du bateau Merveille de Dieu hier au port de Kituku à Goma. 23 personnes sont mortes, 58 ont pu être secourues. On signale également d'importantes pertes matérielles. Ce bilan encore provisoire a été donné hier soir par le commandant divisionnaire Ekoukalipopo Jean-Romuel. Dans ce journal, on va aussi parler de certaines réactions, dont celle du président Félix Tshisekedi et de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Signature hier à Luanda en Angola des annexes à l'accord de gouvernance et gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC entre le gouvernement congolais et le gouvernement angolais. Il faut noter également la signature par le ministre congolais des Finances et son homologue angolais de l'accord de partage des revenus et des respects des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun. La signature de ces accords est importante et aura un impact positif sur le budget national de deux pays, selon le ministre congolais des Hydrocarbures. L'invité de ce journal s'appelle Tina Salama. Elle est la porte-parole du président de la République. Elle va parler de la tournée européenne qu'effectue en ce moment le président Félix Tshisekedi. Bonjour à tous. D'abord, ce mot de sport avant d'aller plus loin. Les Léopards de moins de 20 ans sont sacrés champions du tournoi zonal de l'UNIFAC, l'Union des Fédérations d'Afrique centrale, pour les éliminatoires de la CAN UV 2025. Les hommes de Guy Bukassa ont battu les Diables Rouges du Congo par 2-1 hier jeudi au stade Alphonse Massamba Déba en finale de ce tournoi. Vanessa Kongolo, notre envoyée spéciale à Brazzaville, a vécu ce sacre. Suivez son reportage.
Héroïque, les Léopards U20 remportent la coupe de l'UNIFAC après un tournoi relevé où le coach Guy Bukassa n'a eu droit qu'à 15 joueurs pour 4 matchs. L'équipe a tiré sa force du soutien du peuple, selon le capitaine Eugène Ndumbo.
Je vous avais déjà dit qu'on était amoindris physiquement, mais en esprit c'était la confiance totale. L'objectif a été atteint par la grâce de Dieu, de tout le staff, tous les joueurs. Ainsi que par les soutiens extérieurs du peuple, je suis carrément ému.
Les messages de Guy Bukassa étaient tout sauf la honte. L'homme est heureux de l'aboutissement.
On est très heureux, coup de chapeau à cette très belle génération. Aujourd'hui, durant la causerie, on leur a rappelé tous les drames que nous connaissons au niveau du pays. On leur a même parlé de ce qui s'est passé ce matin avec le naufrage du bateau sur le lac Kivu. On leur a dit tout sauf la honte aujourd'hui. Et on ne pouvait pas perdre deux fois contre le même adversaire. Le Seigneur était vraiment de notre côté parce que ça a été très difficile. Mais les garçons, ils ont l'âme, ils savent défendre la nation et la nation peut être fière d'eux. Je suis très content de mes joueurs.
La RDC ramène la coupe à Kinshasa ainsi que les trophées du meilleur buteur raflé par Tony Talassi avec 4 buts en 4 matchs. Depuis Brazzaville, Paul Badianyama et Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, 23 morts, 58 survivants et d'importantes pertes matérielles enregistrées. C'est le bilan encore provisoire du naufrage du bateau Merdi hier jeudi au port de Kituku à Goma. Le vice-gouverneur du Nord Kivu qui a livré ce bilan hier jeudi dans la soirée appelle la population nationale, particulièrement celle du Nord Kivu et du Sud Kivu, à la solidarité et à l'union des prières devant cette dure épreuve. On écoute le commandant divisionnaire Ekoukalipopo Jean-Romuel.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit. 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma. Plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku. Le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve.
Et puis, ses réactions sur cet accident. D'abord, le président Félix Tshisekedi qui affirme être meurtri par ce drame de plus. Il salue dans un communiqué publié par le directeur de communication de la présidence la bravoure des FRDC et des autres éléments qui ont permis de secourir et de préserver les vies de certains compatriotes. Le chef de l'État dit avoir instruit les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ce drame. Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, écrit dans son compte X, je cite, « C'est avec une profonde tristesse que j'adresse mes plus sincères condoléances à toutes les familles touchées aujourd'hui par le naufrage tragique du bateau Merveille de Dieu sur le lac Kivu. En cette période difficile, mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous restons solidaires avec la République démocratique du Congo. La MONUSCO est mobilisée aux côtés des autorités congolaises pour apporter soutien et réconfort aux populations durement éprouvées. » Fin de citation. Revenons à présent sur les circonstances de ce drame. Que s'est-il réellement passé? Denise Loukesso s'est rendue hier même sur place au port Kituku à Goma. Elle nous décrit l'ambiance après ce drame dans ce reportage.
Les cris de pleurs par-ci et par-là, c'est vraiment le choc. L'émotion et la tristesse étaient grands au port de Kituku ce jeudi, jour du marché. C'est le deuil dans la ville de Goma et à Minova au sud Kivu. Cet incident s'est produit alors que les bateaux tentaient d'accoster, chargés de plusieurs passagers et de marchandises. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les bateaux auraient rencontré des difficultés dans les eaux agitées, ayant conduit à ces naufrages meurtriers, comme le témoigne cet habitant qui était à bord d'un autre bateau.
J'étais à bord d'un autre bateau à 50 mètres du bateau qui a chaviré. Il y avait une forte vague. Le bateau a commencé à se pencher, à s'agiter et enfin à sombrer directement et complètement avec tous les passagers. Certains passagers courageux ont commencé à nager sur les lacs, mais 90% des passagers ont péri.
Les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Cet accident soulève de nouveau des inquiétudes quant à la sécurité maritime sur les lacs Kivu. Pendant ce temps, les rescapés continuent à être évacués dans des hôpitaux et les corps des victimes sont gardés dans les différentes morgues de la ville en attendant leur identification. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Notez que ce bateau reliait les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Au Sud Kivu, la société civile de Bouzi à Minova se dit préoccupée par ce désastre qui a fait de nombreuses victimes parmi les passagers et les membres d'équipage. Elle invite les gouvernements provinciaux du Nord et du Sud Kivu à veiller à l'application des mesures d'embarcation des personnes. Juge Sadiki est joint par Denise Loukesso.
Nous invitons les gouvernements provincial, que ce soit du Nord Kivu, du Sud Kivu, à pouvoir veiller à l'application des mesures d'embarcation, aux mesures de transport des personnes et des biens. Mais aussi que les services habilités commis au niveau des ports puissent jouer réellement leur rôle. Parce qu'hier, mercredi, c'était une pirogue en provenance de Mukwija qui a fait naufrage. À Maboula, aujourd'hui c'est le bateau Merdi et demain on peut assister à un autre drame. Raison pour laquelle nous invitons les autorités à prendre plus de mesures conservatoires pour la protection de la population et de leurs biens. Nous demandons à la même occasion au président de la République d'accomplir la promesse tenue à Mukwija. En avril 2019, il y a eu naufrage. 4 bateaux promis à la population de Kalehe ne sont pas encore arrivés et si ces bateaux étaient arrivés, peut-être on aurait limité les dégâts.
Parlons santé au Nord Kivu. Plus de 26 000 enfants âgés de 0 à 59 mois, en majorité les déplacés de guerre, sont attendus cette semaine pour recevoir des vaccins complémentaires de routine dans la zone de Buhimba et Bulengo, à l'ouest de Goma. Cette campagne de rattrapage appuyée par Médecins sans frontières est mise en œuvre par l'aire de santé de Buhimba dans la zone de santé de Goma. Cette zone regorge d'au moins 7 camps de déplacés avec une population estimée à 400 000 habitants, y compris déplacés et autochtones. Tous ces habitants font face à un défi d'accès aux soins médicaux de qualité, en plus des mauvaises conditions de vie. Sifa Maguro a visité l'un de ces sites.
Plusieurs agents sanitaires sont mobilisés pour administrer les vaccins aux bébés, certains par injection et d'autres par voie orale. Cette campagne vise, entre autres, de renforcer l'immunité des enfants qui n'ont pas pu recevoir tous les vaccins à cause des déplacements à la suite de l'insécurité récurrente dans leur village. Les responsables sanitaires disent avoir constaté un nombre élevé de décès chez les enfants déjà vulnérables et qui vivent dans de mauvaises conditions.
C'est une campagne de vaccination multi-antigène qui ne concerne que les enfants en conflit avec leur calendrier vaccinal et les enfants zéro dose. Ce que sont les enfants qui avaient commencé le vaccin BCG mais n'ont pas pu continuer avec le reste. Maintenant, on est en train d'enregistrer des épidémies à répétition. Comme l'année passée, on avait une épidémie de rougeole. Il y avait aussi une épidémie de choléra aussi.
Cette campagne de vaccination multi-antigène va durer 6 jours et concerne 20 sites de déplacés, dont 19 dans l'aire de santé de Bouhimba, notamment Boulengo, Kinyogote, Sepak, Sebeka, Rugo, Mabanga, Kibingu, Chifra et autres. Goma Sifamagoro, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, les acteurs humanitaires locaux veulent être promus dans leurs activités lors des catastrophes naturelles à RDC. C'est ce qui ressort d'un atelier de 2 jours organisé dans la capitale sous la supervision du Conseil national des ONG humanitaires et de développement de la RDC, CONAFOD. Hier jeudi, à la clôture de cet atelier, le coordonnateur de cette structure a insisté auprès des humanitaires internationaux et du gouvernement sur le soutien des efforts des leaderships humanitaires locaux avec des financements. Car, dit-il, ce sont les humanitaires locaux qui interviennent souvent en premier lieu lorsqu'il y a catastrophe dans le pays. D. Joseph Kakisingi s'est confié au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
L'objectif de cet atelier, en fait, c'est de sensibiliser les acteurs internationaux pour qu'ils puissent capaciter les ONG nationales et leur permettre de prendre le premier plan de l'action humanitaire. Parce que, comme vous le savez, lors des catastrophes, lors des crises humanitaires, les acteurs locaux sont les premiers à arriver sur les lieux. Ils sont les premiers à donner les premiers secours en attendant que les internationaux arrivent avec beaucoup de moyens. Ce qu'on est en train de faire, la promotion de faire ici, c'est en fait demander au gouvernement aussi de faire sa part, notamment de mettre en place des structures ou des lois qui permettent une bonne action pour les acteurs locaux. Parmi les choses qu'on demande, c'est notamment d'avoir une politique nationale sur l'action humanitaire, une loi qui régit l'action humanitaire, mais aussi la contribution du gouvernement au fond pour les acteurs locaux. Parce que nous voulons que les acteurs locaux aient la possibilité d'accéder à un financement où aussi le gouvernement contribue.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, participe ce vendredi au sommet de la francophonie qui se tient à Paris, en France. Ce 19e sommet de la francophonie est axé sur le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». À en croire Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, outre les rencontres avec ses homologues français et tchadiens, le président de la République fera à nouveau entendre la voix de la RDC sur la question sécuritaire dans la partie est du pays au sein de cette communauté. Avant Paris, Tshisekedi était en Hongrie, où diverses questions en faveur de la RDC ont été évoquées, comme nous le dit sa porte-parole dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Les chefs de l'État le fait partout où ils passent, en tout cas, surtout la conscientisation des autorités hongroises sur l'injustice que subit notre pays suite à l'agression du Rwanda, sachant que la Hongrie assure jusqu'au 1er janvier 2025 la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Donc il faut dire que c'est un pays stratégique, non seulement au niveau de l'Europe centrale et orientale, mais c'est également un pays qui entretient des très bonnes relations avec les grandes puissances comme la Chine, comme la Russie aussi. Alors, notre intérêt par rapport à la Hongrie, on va dire d'abord, sur le plan diplomatique, mettre la RDC en bonne position à l'agenda européen, empêcher l'unanimité contre la RDC au niveau du Conseil de l'Union européenne, aussi soutenir les points d'intérêt de la RDC vis-à-vis des puissants partenaires internationaux. Sur le plan économique, on va dire que c'est pour contribuer à l'industrialisation du secteur minier, aussi favoriser les innovations au niveau des techniques agricoles. Donc concernant la coopération agricole, on va rappeler que la Hongrie intéresse à investir dans des pays à potentiel agricole comme le nôtre, la RDC, également pour la production énergétique nécessaire à l'industrialisation.
Notez que Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, revient comme invité à la fin de ce journal. Le gouvernement congolais, à travers le ministre des Hydrocarbures et le gouvernement angolais, via son homologue des ressources minérales, pétrole et gaz, ont signé hier à Luanda les annexes à l'accord de gouvernance et gestion de la zone maritime d'intérêt commun ZIC. Au même moment, le ministre congolais des Finances et son homologue angolais ont signé l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun, ainsi que le règlement de la commission de supervision du compte conjoint de la zone d'intérêt commun. Cette double signature est intervenue en marge de la 5e édition de la conférence Angola Pétrole et Gaz. Le président angolais, João Lourenço, les ministres des Hydrocarbures d'Angola et de la Namibie, de la Côte d'Ivoire, de la RDC et des représentants des organisations internationales du secteur du pétrole ont pris part à cet important rendez-vous. Pour le ministre congolais des Hydrocarbures, la signature de ces accords reste très déterminante pour les économies congolaises et angolaises, avec un impact positif sur le budget national de deux pays. On écoute Aimé Sakumbi Molendo dans cet extrait proposé par Guy Maté.
Nous avons donc signé ce matin les annexes à l'accord de gouvernance qui avait déjà été signé. Le contrat de partage de production avait déjà aussi été signé. Là maintenant, nous sommes vraiment en train de rendre opérationnelle cette zone d'intérêt commun. Il reste que la ratification des deux pays. Je suis sûr que ce sera très rapide avec l'impulsion des deux chefs d'État. Ensuite, une réunion technique avec l'opérateur Chevron qui va nous donner donc le calendrier précis jusqu'à la production. Je voudrais remercier Diamantino pour cette organisation. Nous sommes sûrs que dans les 2-3 jours, nous aurons des contacts efficients qui vont nous permettre, nous, la RDC, il y a un nouveau gouvernement, il y a une nouvelle vision, d'essayer de corriger ce qu'il y avait à corriger, d'aller de l'avant, mais en profitant de toute l'expérience angolaise.
L'invité.
Comme annoncé, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, est l'invité de Radio Okapi ce matin. Sachez que Félix Tshisekedi est en ce moment en tournée en Europe où il a échangé avec les autorités hongroises avant de se rendre en France où il doit participer ce vendredi au 19e sommet de la francophonie. Dans cet entretien avec Billy Yvan Lutumba, Tina Salama a fait le point sur les principales questions d'échange abordées par le président de la RDC. Suivez.
Tina Salama, bonjour. Le sommet de la francophonie s'ouvre ce vendredi. Pouvez-vous nous confirmer la présence du président Félix Tshisekedi à ses assises?
Le président de la République arrive à Paris pour, comme vous le savez, participer au 19e sommet de la francophonie qui s'ouvre le 4 octobre à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Donc la cérémonie d'ouverture est axée sur les thèmes créer, innover et entreprendre en français. Alors le même 4 octobre, on va dire, le président français Emmanuel Macron va offrir un dîner au Palais de l'Élysée, bien évidemment, aux chefs d'État et de gouvernement auquel prendra part le président Félix Tshisekedi. Et donc le 5 octobre sera consacré aux travaux. Le chef de l'État va participer au huis clos.
À l'agenda du chef de l'État à Paris, que pouvons-nous retenir?
En marche donc du sommet de la francophonie, le président de la République va rencontrer son homologue français, le président Emmanuel Macron, celui du Tchad, le président Déby, ainsi que le premier ministre du Grand Duché du Luxembourg.
Tina Salama, la question de l'agression de la RDC sera certainement à l'agenda du président. Y a-t-il d'autres questions importantes qui pourraient être évoquées à l'occasion de ces assises par le président de la République?
Alors, notre participation au sommet de la francophonie sera une occasion pour nous, en tout cas pour le pays, de faire entendre notre voix. Bien évidemment que la question ou la situation sécuritaire sera évoquée dans le discours du président. On va également rappeler que nous occupons une place de plus en plus importante dans l'espace francophone. Aussi, il est toujours important de rappeler les valeurs de la francophonie qui, en plus d'être un espace linguistique, est une communauté des valeurs comme celle de la paix, de la démocratie, de la solidarité et de l'égalité, et que nous comptons sur elle par rapport à ce que nous vivons en ce moment.
Dites-nous, Tina Salama, madame la porte-parole du chef de l'État. Avant l'étape de Paris, Félix Tshisekedi était à Budapest. Que pouvons-nous retenir de sa visite en Hongrie?
Alors concernant la Hongrie, le président de la République a eu une visite, on va dire, très intéressante, très intense à Budapest, tant sur le plan diplomatique que politique. Il a été reçu, vous l'avez vu, en tout cas vous l'avez suivi dans les médias par tous les chefs d'institution de la Hongrie, du président de la République, en passant par le Premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Alors le président a été lui accompagné de quelques ministres de la RDC.
Hongrie, c'est rare qu'on en parle. Quel intérêt pour la RDC? Quelles sont les retombées de la visite du président à Budapest?
Et donc l'intérêt, on va dire, des deux pays était plutôt tourné, ou surtout, hein, parce qu'il y avait d'autres secteurs aussi, mais on va dire surtout vers les secteurs de l'agriculture, les infrastructures et l'énergie, mais ainsi que les minerais stratégiques pour la fabrication des batteries électriques. Vous savez que la Hongrie est très avancée dans les industries d'automobiles que le président a eu à visiter. On va donc dire que tout ceci, c'est vraiment dans le cadre de renforcement des relations diplomatiques entre les deux États, mais surtout, et les chefs de l'État le fait partout où ils passent en tout cas, c'est surtout la conscientisation des autorités hongroises sur l'injustice que subit notre pays suite à l'agression du Rwanda, sachant que la Hongrie assure jusqu'au 1er janvier 2025 la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Donc il faut dire que c'est un pays stratégique, non seulement au niveau de l'Europe centrale et orientale, mais c'est également un pays qui entretient des très bonnes relations avec les grandes puissances comme la Chine, comme la Russie aussi. Alors, notre intérêt par rapport à la Hongrie, on va dire d'abord, un, sur le plan diplomatique, mettre la RDC en bonne position, l'agenda européen, empêcher l'unanimité contre la RDC au niveau du Conseil de l'Union européenne, aussi soutenir les points d'intérêt de la RDC vis-à-vis des puissants partenaires internationaux. Sur le plan économique, on va dire que c'est pour contribuer à l'industrialisation du secteur minier, aussi favoriser les innovations au niveau des techniques agricoles. Donc concernant la coopération agricole, on va rappeler que la Hongrie s'intéresse à investir dans des pays à potentiel agricole comme le nôtre, comme la RDC, également pour la production énergétique nécessaire à l'industrialisation.
Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.